Lecture par tous.
C'est un dialogue.
L'émission qui vous parle des livres.
C'est une gymnastique intellectuelle extrêmement bénéfique pour le cerveau.
Des métiers du livre, des lecteurs.
Les jeunes n'ont pas perdu le goût de la lecture.
Et de leur lecture. Bonjour à tous. Lecture par tous, aujourd'hui, va s'intéresser à la pire espèce. Alors, la pire espèce animale. Quelle est la pire espèce animale? Vous le devinez peut-être. Hein. C'est pas les mille pattes ou je ne sais quoi. C'est peut-être l'espèce humaine, hein, tout simplement. On va voir ce que l'auteur de ce roman, de ce thriller, hein, un thriller qu'on pourrait qualifier de thriller vétérinaire presque, hein, ou animal en tout cas, Armelle Malavallon, nous allons parler avec elle. Bonjour Armelle Malavallon.
Bonjour Marc.
Alors, à la radio, on ne tutoie pas en principe, mais bon, comme on s'est croisé plusieurs fois, je risque de déraper, donc on va l'assumer franchement. Et puis voilà. Donc, c'est le troisième roman que tu publies. Hein.
C'est
il y avait
ça.
Eu pour les amateurs de polar montpelliérain, on pourrait dire, mais c'est du polar tout court. Hein. Il se trouve que tu es de Montpellier-Rennes et puis ça se passe. Là, la pire espèce, on est dans le quartier Chaptal, hein, très précisément. Il y avait eu Soleil Noir, qui était sorti en 2015, je crois.
2015, c'est ça.
Hein, qui s'intéressait à un phénomène étrange, qui était celui des combustions humaines spontanées.
Exactement.
Voilà. Et puis, il y avait eu ensuite Dans la peau, un roman qui se passe dans les milieux du tatouage.
Alors, qui se passait à Paris, celui-là.
Et qui était parisien, qui n'était pas Montpellier, hein, effectivement. Hein. Et puis, alors il y a eu aussi, alors ça c'est les romans, c'est ce que le grand public connaît le plus, mais il y a eu aussi un volume de nouvelles auquel tu avais contribué, hein, qui s'appelle Animalia, où là tu avais utilisé, tu t'étais basé sur ton expérience de vétérinaire, parce que tu es aussi vétérinaire.
Exactement, oui.
Hein, pour nous proposer quelques nouvelles. Hein. Donc, c'était chez Maya Édition. C'était sorti il y a combien de temps, ça?
C'est sorti en 2016.
2016.
Effectivement, là, les nouvelles m'avaient été commandées par un éditeur en raison de ma profession de vétérinaire qui voulait que j'écrive sur les animaux et sur mon expérience de vétérinaire.
D'accord, voilà. Alors, un volume, oui, il y a plusieurs auteurs. Un auteur que j'aime bien, qui est Gérald Grune, qui est de l'Auxerrien. Mais il n'y avait pas que ça. Il y avait eu des choses antérieures, si je me souviens bien. J'avais participé à cette aventure un peu étrange, de, comment ça s'appelait, l'exquise nouvelle.
Oui, alors c'est vrai qu'avant la sortie de mon premier roman, Soleil Noir, j'avais participé à plusieurs expériences d'écriture collaborative.
Ouais.
D'abord, Connexion, qui était un polar interactif qui avait été lancé par Michel Field dans son émission littéraire sur TF1, où on avait écrit un polar à 8 ans. Ils avaient lancé, c'était Au fil de la nuit, l'émission littéraire.
Ouais, ouais.
Ingrid Desjours, qui est une auteure de polar, avait écrit le premier chapitre et ils avaient fait un appel au public pour écrire la suite. Et j'avais deux chapitres qui avaient été sélectionnés dans ce polar connexion. Et ensuite, j'ai participé effectivement à l'exquise nouvelle, où là, c'était des nouvelles sur le mode du cadavre exquis. Donc, on était trois auteurs à écrire une nouvelle. Le premier écrivait le début, le deuxième le milieu et le troisième la fin, sans se connaître, sans savoir qui écrivait avec qui et avec un thème de départ. Voilà, c'est des jeux littéraires qui utilisent ce qu'avaient l'habitude de faire les surréalistes, Queneau,
oui,
etc.
Fait, oui.
Donc c'était des expériences très intéressantes avant de me lancer dans l'écriture de mon premier roman, effectivement.
Oui, et puis certains écrivains qui ont fait leur chemin, qui avaient déjà fait leur chemin ou qui ont fait leur chemin depuis, avait participé à ça. Je sais que j'en avais discuté avec Victor de Lalbol, par exemple.
Oui, c'est vrai, dans
qui
la
avait,
3...
Qui s'était prêté à ce jeu-là, alors qu'il avait déjà publié, son premier roman seulement à l'époque.
Oui, le dernier Samouraï.
La tristesse du samouraï.
Oui, c'est ça, Tristesse du samouraï. Et depuis, oui, effectivement, il a fait son chemin.
Il a fait du chemin depuis.
Oh, mais il y en a d'autres, hein, à l'époque de l'exquise nouvelle, parce que moi, en plus, je m'occupais de chapeauter le projet, donc je corrigeais les nouvelles. Il y avait des auteurs comme Michel Bussy, Bernard Minier, qui n'étaient pas encore aussi connus que maintenant, et qui depuis ont vraiment explosé.
Oui, oui. Eh ben, tu en fais partie d'ailleurs. Alors, la pire espèce, là, on va dire, il me semble que c'est un roman un petit peu à part par rapport au précédent, parce qu'il y a quelque chose... Mais tu t'appuies sur ce que tu connais vraiment très bien. J'imagine que tu n'as pas eu besoin de faire beaucoup d'enquêtes pour parler du monde des vétérinaires. Alors que je sais que j'avais eu un travail d'enquête sur le tatouage, tu avais fait tout un travail sur de rencontrer un tatoueur qui t'avait guidé un petit peu, ton guide dans ce monde-là. Ça est noir, bon, ça t'intéressait. Tu avais fait des recherches aussi historiques sur
la combustion humaine spontanée.
Sur la combustion humaine. Mmh. Alors, est-ce que vraiment c'est quelque chose de différent ? Est-ce que c'était un projet qui était en tête depuis un moment ? Ou comment c'est venu ce troisième roman ?
Oui, je crois qu'on peut vraiment dire que La pire espèce, c'est vraiment un roman beaucoup plus personnel, effectivement, parce que je me base sur mon expérience de vétérinaire. C'était plus ou moins déjà sous-jacent dans mes précédents romans. Alors, il y avait eu ces fameuses nouvelles, où là, je m'inspirais vraiment de mon expérience. Je parsemais mes romans de chats, de vétérinaires par-ci, par-là. Mais c'était toujours des petits clins d'œil. Mais j'avais vraiment quand même envie d'écrire un roman sur les vétérinaires et aussi sur la cause du bien-être animal et de la maltraitance animale. C'est un sujet qui me tient à cœur. Et c'est vrai que ça faisait longtemps que j'y pensais. On me le demandait d'ailleurs. C'est vrai que pendant la promo de mes différents ouvrages, à chaque fois, ça revenait. Vous êtes vétérinaire, vous n'avez pas envie d'écrire sur les vétérinaires, sur les animaux ? Et je disais oui, peut-être un jour. Et voilà, ça a mûri. Et à un moment, je me suis dit, bon, voilà, c'est maintenant, il faut que je me lance. Et pour moi, les vétérinaires ont un rôle tellement important à jouer pour améliorer la condition animale en France et le bien-être animal, que ça me paraissait évident que le thème de ce polar, ça devait être la condition animale et le bien-être animal. Parce que j'aurais très bien pu faire un roman, un thriller, un polar sur les vétérinaires avec des histoires de meurtres, de disparitions, de vols, de chiens, sais-je. Mais pour moi, le thème devait être celui-là, quoi. C'était vraiment évident. Et ça a mûri assez longtemps parce que je me disais que j'aurais vraiment beaucoup de mal à me mettre dans la peau de gens qui maltraitent les animaux. Parce que quand on écrit un roman, on doit se mettre dans la peau de tous les personnages, les gentils comme les méchants. Et c'est vrai que le fait de devoir me mettre dans la peau de gens qui maltraitent les animaux, de sadiques qui torturent des animaux pour le plaisir, ça me paraissait assez difficile comme exercice. Donc j'y allais un peu à reculons. Et puis à un moment, je me suis dit, bon, il faut y aller. Et j'ai fini par me lancer.
Oui, c'est incompréhension que d'ailleurs plusieurs des personnages du roman partagent, c'est-à-dire à un moment donné, ils ne comprennent pas qu'est-ce qui peut motiver des personnes à maltraiter des animaux. Alors, sans dévoiler l'intrigue, hein, voilà, il y aura des lapins, les pauvres lapins
massacrés,
on peut dire. Oui, c'est le thème, il n'y a pas d'autre mot. Hein. Une incompréhension des personnages qui sont autour, mais comment c'est pas possible, quoi. Et du coup, qui réagissent de façon assez radicale et assez violente, eux aussi.
Oui.
Voilà,
oui.
On va pas en dire plus.
Oui, alors je vais juste là, comme vous parlez de la violence. C'est pas du tout un plaidoyer pour le œil pour œil, dent pour dent, la violence violence. J'ai voulu parler de ce sujet, mais en apportant une vision assez modérée. Moi, je suis extrêmement modérée. De toute façon, d'une manière générale, dans la vie, je déteste les extrémismes. Enfin, je déteste. Déjà, je n'aime pas les gens qui disent « je déteste », donc j'ai retiré. j'ai du mal. Voilà. J'ai du mal.
Tu détestes détester, quoi.
Voilà. Donc, j'ai beaucoup de mal avec les extrémistes, avec les gens qui disent justement « je déteste les animaux, je déteste les femmes, je déteste les gens pour leur race, leur religion, que sais-je. » Et donc, les gens qui veulent protéger les animaux, parfois, sont un peu dans l'extrémisme aussi. J'avais envie d'apporter une vision plus modérée. Et le vétérinaire peut avoir cette vision parce qu'il a souvent choisi ce métier par passion, pour les animaux, par amour des animaux, mais il est quand même inclus dans un système où il doit prendre en compte l'élevage des animaux de rente, la mise à mort des animaux, toute la filière animale pour la consommation humaine. Et un vétérinaire, pour moi, par exemple, ne peut pas être végane. Hein, c'est pas possible. Comment voulez-vous être végane et continuer à avoir des chats et des chiens qui se nourrissent de viande et de protéines animales? C'est pas possible. Donc voilà, il faut avoir une vision assez mesurée parce qu'on ne peut pas aller dans des extrêmes. Si toute l'humanité devient végane, les animaux vont disparaître. J'ai voulu apporter quand même une vision assez modérée et mesurée. Donc ce n'est pas un livre où les défenseurs des animaux vont massacrer tous les salauds qui torturent et tuent des animaux. C'est un peu plus subtil que ça.
Oui, même si à certains moments, ils peuvent être pris d'une colère vis-à-vis d'eux, qui les fait aller au-delà de ce qui serait du raisonnable, simplement. Alors, il me semble qu'il y a aussi, dans la mesure, hein, il y a... une chose que je voulais préciser, peut-être, ce sera utile de préciser, vétérinaire, mais les vétérinaires qu'on voit apparaître dans ce roman ne sont pas ce qu'on imagine généralement d'un vétérinaire. Il y a un petit clin d'œil, on sent, j'ai envie de dire, j'ai moins l'impression que tu t'es bien amusé aussi à composer ce roman. Il y a une vétérinaire qui s'est retirée un peu de la profession et qui écrit des polars. Tiens, c'est étonnant. Et puis, l'autre, il y a deux principaux. Hein. L'autre vétérinaire, c'est pas le vétérinaire classique.
Non, c'est vrai que il y a différents personnages de vétérinaires et il n'y en a aucun qui est le vétérinaire classique, c'est-à-dire le cliché qu'on peut avoir. Enfin, le cliché. La grande majorité des vétérinaires que les gens connaissent sont les vétérinaires, les praticiens libéraux qui exercent en clinique vétérinaire ou dans des cabinets vétérinaires, en ville ou à la campagne, et qui soignent les animaux. Mais il y a d'autres profils, il y a d'autres carrières professionnelles. Et effectivement, j'avais envie de présenter un peu des profils de vétérinaires un peu atypiques. Donc il y a effectivement Léo Delas, qui est cette vétérinaire qui est devenue auteur de polar et qui n'exerce plus du tout profession de vétérinaire. Parce qu'elle est une auteure à succès. Tout le monde dit que c'est moi, mais pour moi, Léo Delas, c'est plutôt Fred Vargas, on va dire. Là, on est plutôt dans une auteure vraiment à succès qui est mondialement connue. Donc là, elle a, comme Fred Vargas, était elle-même chercheuse. Et elle a arrêté sa carrière parce qu'elle peut se consacrer entièrement à la littérature. Sinon, il y a Clément Katz, qui lui est un vétérinaire qui a un profil carrément atypique, qui travaille une grande partie de l'année dans un centre de réhabilitation pour les chimpanzés au Congo. Et il rentre, donc c'est vraiment un veto, lui, il aime la vie sauvage, dans la jungle, au contact des chimpanzés, des animaux sauvages. Et il rentre quand même une ou deux fois par an en France pour effectuer soit des remplacements en clinique vétérinaire, en rurale ou en canine, soit pour effectuer des missions auprès des services vétérinaires. Et donc là, effectivement, il rentre à Montpellier pour effectuer un remplacement dans un abattoir et pour effectuer ce que font un certain nombre de vétérinaires en France, c'est-à-dire le travail de vétérinaire inspecteur qui contrôle la qualité de la viande qui contrôle également le bien-être et la façon dont sont traités les animaux dans les abattoirs.
Oui, donc qu'il y a un œil sur comment se passe la chaîne d'abattage, si les animaux sont bien traités et puis... après, est-ce que les carcasses sont propres à la consommation ou pas?
Voilà.
Hein? Donc effectivement, ce n'est pas toujours ce qu'on imagine du côté du vétérinaire, mais là, si. Alors, il y a du jeu. On évoquait Léo, vétérinaire.
Oui.
Il me semble tout au début du roman, enfin pendant un long moment, je me suis dit, mais c'est... tu nous amènes sur des lieux communs et paf, tu prends le contre-pied. Hein, on a le vétérinaire qui est au centre, le Clément Katz. Alors déjà, Katz, il s'appelle chat. Hein.
Oui.
En allemand, c'est le chat. Et puis, Il va rencontrer dans l'avion, c'est au tout début du récit, c'est une vieille dame très bourgeoise, n'est-ce pas ?
Très comme il faut.
Voilà, très comme il faut, mais qui était intéressée par l'équipe et qui est une fan de rugby. Bon, alors déjà, on se retrouve avec une espèce de contre-pied. Et puis quand on va... au début, tu nous parles de Léo, on ne sait pas encore qui est Léo. Mais bon, on voit le prénom de Léo dans un récit, on se dit, bon, c'est un homme.
Oui,
non,
voilà.
Léo, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Et puis on découvre, bon, quel est son vrai prénom déjà?
C'est Léopoldine.
Léopoldine, voilà. Mais bon, j'imagine que pas grand monde aura imaginé ça au début.
Oui, c'est des petits clins d'œil qui permettent de... Par exemple, pour Sophie, donc la mère de Léo, qui est la vieille dame très comme il faut, ça permet dès le départ de présenter le personnage et de montrer à quel point elle n'est pas juste une petite dame bourgeoise comme il faut, lisse et sans aspérité, qu'elle est plus que ça, en fait. Hein. Et que les personnages sont tous un peu atypiques et ont tous un petit grain de folie, quoi. J'aime bien quand les personnages ne sont pas trop lisses et sont attachants, justement, par leur côté un peu, leurs aspérités, leur côté un peu atypique, hein. Leur petite bizarrerie, on va dire.
Alors, on va pas dévoiler, hein, mais ça va être compliqué. En plus, tu nous emmènes sur des fausses pistes, parce que on peut croire que... Alors, j'ai envie de dire que c'est un polar sans policier, déjà, il faut quand même le préciser. Il n'y a pas d'enquêteur, il n'y a pas de flic, on ne voit pas de personnage de flic apparaître.
Quasiment pas, s'il y a un flic à un moment
hop, et puis il disparaît aussi vite.
Il est assez anecdotique, on va dire. Police n'est pas très présente dans l'histoire, mais c'est pas anodin. C'est-à-dire que j'ai aussi voulu montrer que dans les histoires... Alors là, c'est un peu différent, par exemple, avec les histoires de mutilation de chevaux en ce moment.
Oui, là, on pense tout de suite à ça quand on lit le roman.
Il y a un paquet de gendarmes et de policiers qui sont mobilisés pour essayer de mener cette enquête et de trouver les coupables. Mais d'une manière générale, dans les histoires de maltraitance sur les animaux, on va dire que la police n'est pas très présente et la justice ne fait pas grand-chose. Donc ça, c'était une façon de montrer aussi que dans ce domaine-là, en France en tout cas, la police et la justice ne font vraiment pas grand-chose. Oui, j'espère que ça va changer avec cette histoire de mutilation sur les chevaux, parce que ça a vraiment choqué la population française et ça a fait vraiment, voilà, là ils sont obligés de faire quelque chose.
J'ai envie de dire, ça réagit du côté de l'opinion, du coup ça réagit aussi ailleurs, ça essaye de répondre à... alors peut-être c'est aussi le projet du roman à un moment donné d'attirer l'attention du public sur ces questions-là ou...
Ah mais oui, vraiment, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que c'était de montrer que personne ne fait rien, en fait, pour ces... Il y a des associations, là, il y a des gens qui se battent hein, quand même tous les jours, des bénévoles, des associations, etc. Mais du côté de la justice, il ne se passe pas grand-chose. C'est-à-dire que des gens qui maltraitent leurs animaux, qui les enferment, qui les affament, qui les martyrisent, etc., ils s'en tirent à peine avec une amende. Ils n'ont pratiquement jamais de prison. Ils ont du sursis. Les peines de prison sont dérisoires, alors que dans d'autres pays, la justice n'est pas du tout la même. C'est vraiment reconnu. La maltraitance animale, les sévices sur les animaux sont sévèrement punis. Donc, tant qu'il n'y aura pas une justice forte qui vraiment punira les coupables, les gens continueront à se comporter comme ça avec les animaux. Ils n'ont aucune raison d'arrêter. Genre, limite envie de dire que c'est pareil pour la maltraitance des enfants. En France, les enfants sont, avec les animaux, les êtres vivants qui sont les moins protégés. C'est quand même terrible. Quand on voit qu'il y a des enfants qui sont victimes d'inceste et de maltraitance de la part de leurs parents et que les parents ressortent avec du sursis et retournent dans leur famille pour continuer à maltraiter leurs enfants. Voilà, c'est un peu... C'est un peu ahurissant, quoi.
Et... Alors, quand tu dis ça, ça me rappelle, moi, quelque chose que j'avais rencontré il y a quelques années en arrière, quand je travaillais dans l'éducation spécialisée, avec des adultes, comme on dit aujourd'hui, en situation de handicap. Et je me rappelle qu'il y en avait le centre où je travaillais à l'époque, il y avait des chevaux. Ils avaient une activité avec des chevaux. Et il y en a un qui était... il y était tout le temps, mais on ne peut pas dire qu'il était très bien traitant avec les chevaux. Et je me rappelle d'un des éducateurs qui disait « Oui, ben, c'est pas terrible. » Il essayait de... Mais il disait, il vaut peut-être mieux qu'il maltraite un cheval que les autres résidents du centre, quoi. Oui. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce genre de position ?
Je trouve ça honteux. Je trouve ça honteux parce qu'il n'y a pas de hiérarchie dans la souffrance et dans la douleur. C'est exactement comme les gens qui vont vous dire « Ah, c'est bon, à quoi bon s'occuper des animaux alors qu'il y a des enfants qui meurent de faim en Afrique ?» c'est la hiérarchisation des souffrances et dire que telle cause est supérieure à telle autre. Moi, je trouve ça choquant, c'est tout. Je trouve ça choquant. On ne peut pas accepter une souffrance pour une autre. Donc voilà, ça je ne suis pas du tout d'accord avec ce genre de position. Les gens qui peuvent... Parce que moi... je me suis toujours engagée pour la cause animale et je l'ai entendu, ça. Oh, ça va, il y a des enfants qui meurent de faim, il y a des gens qui souffrent, il y a des guerres, etc. Ben, chacun ses causes, quoi. On choisit ses causes, on ne peut pas sauver le monde, mais on a le droit de choisir ses causes et une cause n'est pas meilleure à une autre, selon moi.
Oui, ça, et puis on peut dire... Moi, j'aurais tendance à dire aussi... quelqu'un qui est capable de faire souffrir, de torturer, des animaux.
On
va dire qu'il ne va pas faire grand-chose de bien avec les humains.
Hein. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on commence sur les animaux et puis ça finit sur les hommes. Ça dénote de toute façon d'un profond sadisme et d'une absence totale d'empathie.
Alors, j'imagine que c'est un roman avec lequel tu as pas dû te faire que des amis. Je me suis où là, ça attaque fort sur le prologue. Le prologue, j'imagine, on est dans une région où il y a beaucoup d'aficionados de corrida. Après, ça reviendra dans le récit un peu plus loin. On a une corrida qui tourne, je dirais, quasiment à la faveur du taureau. Pour une fois, voilà. Quand tu le dis comme ça, c'est où est ta position. Ça t'a valu des retours ou des critiques vous avez rien compris, c'est je sais pas quoi.
Pas encore. Le roman est
pas
sorti.
Encore.
Le roman n'a
pas encore été assez diffusé.
Le roman est sorti le 15 septembre. Donc, pas encore, mais c'est possible. Je m'y attends d'avoir... à la fois des reproches. Je pense qu'avec ce livre, je peux avoir à la fois des reproches. Pas des reproches de gens qui aiment torturer les animaux, parce que ça,
ils vont peut-être adopter un profil bas.
Voilà, ils ne vont pas aller venir le clamer sur les toits, mais des aficionados de la corrida, effectivement, éventuellement de gens qui travaillent dans les abattoirs, qui vont m'expliquer à quel point c'est un travail difficile et à quel point la condition de travail des hommes et la condition humaine est bien plus importante que la condition animale. Et donc, je ferais mieux de m'occuper de mes affaires. Et je peux aussi avoir des reproches des extrémistes de la cause animale qui vont me dire que je n'en fais pas assez, que je suis trop justement mesurée dans mes propos et que je ne défends pas assez les animaux. Ils auraient sûrement préféré qu'on massacre tout le monde. Mais je peux avoir des reproches des deux côtés, à mon avis. Je vais revenir deux minutes sur les abattoirs. Il y a une chose que je veux quand même préciser. C'est vrai que les conditions de travail dans les abattoirs sont terribles.
Je voulais justement te tendre cette perche. Tu la prends toute seule, c'est très bien.
Et ça, je ne le nie pas, je le sais. La seule chose que je veux expliquer, c'est qu'à partir du moment où l'animal est mort et que ce n'est plus qu'une carcasse, le reste de la chaîne, c'est une chaîne industrielle, comme une autre. C'est-à-dire que tous les ouvriers travaillent sur de la viande. C'est un travail de boucherie. On débite une carcasse. Donc, ces gens-là ne maltraitent pas les animaux. qu'ils aient des conditions de travail terribles dans la bidoche, l'odeur, la chaleur, etc. C'est terrible, etc. Mais eux, il n'y a pas de problème, ils travaillent sur de la viande. Le seul poste clé, c'est la mise à mort. Il n'y a pas énormément de gens qui travaillent au niveau de la mise à mort. Il y a quelques personnes qui travaillent sur la mise à mort.
Bah là, dans ce que tu décris, on en voit deux.
Voilà, c'est l'étourdissement, la mise à mort. Et avant, la stabulation des animaux voilà, qui attendent le passage à l'abattage. Et puis le transport. Voilà, donc il y a quelques points stratégiques. Et il n'y a pas tant de gens qui travaillent sur ces points-là, la mise à mort, l'abattage et le transport. Et ces gens-là devraient être mieux formés, mieux choisis. Et c'est des points sur lesquels on peut vraiment travailler. Parce qu'après, qu'on me parle de la souffrance au travail des gens qui travaillent dans les abattoirs, ça n'a rien à voir avec le bien-être animal. C'est des gens qui travaillent dans la boucherie. Donc voilà, il y a plein de gens qui travaillent dans des industries très compliquées, très dures. Et ils ne maltraitent pas des animaux pour autant. Quoi. Voilà.
Voilà. Non, puis, pour mieux connaître, avoir mieux conscience de ce problème, moi, je trouve qu'il y a certaines choses que tu expliques bien. Bon, tu évoques cette difficulté à travailler dans ce milieu. Ce n'est pas simple. Et puis, il y a des cadences à tenir et tout. Ça aide pas. Et puis, mais en même temps, tu donnes des éléments. C'est-à-dire qu'un animal stressé, qui est dans un grand état de stress et qui est abattu à ce moment-là, ça a une incidence sur la qualité
de la viande,
qualité organoleptique et sanitaire de la viande qui va de la carcasse quoi derrière.
Oui, bien sûr.
Et c'est pas juste du les petites bébêtes. Non, c'est autre chose. Il n'y a pas que ça, quoi.
Ça fait partie des bonnes pratiques d'abattage. Ça fait partie de la qualité aussi de ce travail.
On pourrait dire c'est la question de la malbouffe aussi.
Voilà, exactement. Hein, voilà. Exactement.
Bien, nous arrivons à la fin de l'émission. Alors juste en deux mots, il y a d'autres choses sur le métier. Imagine, en tant qu'écrivain, on sort d'un roman, hop, on termine, il y a les corrections, il va y avoir tout ça. Et puis, mais il y a déjà le prochain qui est en train de mûrir.
Oui, il est déjà en cours parce qu'effectivement, la sortie de celui-là,
elle
de la pire
espèce,
a été repoussée à cause de la crise sanitaire et du coronavirus. Donc le prochain est en route. Il se passera toujours à Montpellier. Je reste à Montpellier. Il n'y aura eu que dans la peau où il y aura une petite...
On sera allé en région parisienne.
Voilà,
région parisienne.
Escapade parisienne. Là, je reste à Montpellier. Et ce que je peux dire, c'est que le héros ou les héros seront des médecins cette fois. Et le héros principal sera un médecin biologiste qui travaille à l'hôpital. Voilà.
On reste avec des scientifiques.
Des scientifiques, voilà.
Bien, merci beaucoup Armel Malavallon. Donc je rappelle le titre, La pire espèce. Alors l'éditeur a dit thriller. Oui, pourquoi pas. Oui, on peut dire ça comme ça. C'est publié chez Ramsay. Et voilà, si vous voulez découvrir, il y a un monde de veto, d'accord, mais il y a surtout cette question qui est posée tout au long du livre, sans réductionnisme radical, sans caricature, voilà, je cherchais le terme, de la bien-traitance vis-à-vis des animaux. Avec une touche d'humour, je voulais le citer quand même, la fille du vétérinaire principal s'appelle Mégane, et Mégane est végane. Voilà. Merci beaucoup.
Merci Marc.
Et j'espère, on se retrouvera peut-être pour parler du prochain roman.
Eh bien, avec plaisir.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Lecture par tous.
C'est un dialogue.
L'émission qui vous parle des livres.
C'est une gymnastique intellectuelle extrêmement bénéfique pour le cerveau.
Des métiers du livre, des lecteurs.
Les jeunes n'ont pas perdu le goût de la lecture.
Et de leur lecture.